10h28, on vous l'avait promis, elle est là, elle est en studio. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée. Salut Paul!
Hey, bonjour! Tellement heureuse d'être là.
On est content de te retrouver.
Hmm. Oui, oui, c'est vrai.
Là, je constate que, bon, t'ont pas aidé pour ta chaise, là.
Voilà. Non, mais ici, ils mesurent tous 6 pieds 8 et plus. Là. C'est vrai. Quand j'arrive, c'est pas adapté.
Ouais, c'est ça. Mais on devrait être plus adapté pour les personnes de petite taille. On n'a plus le droit de dire non, hein?
Non, c'est plus bien.
Personne
vu.
De petite taille.
Ben,
taille.
Je vais te décevoir, mais ça part de 4 pieds 8 et je n'ai malheureusement pas le 4 pieds 8.
T'es à combien,
plus?
Là? 4 et 9?
Est-ce que je dois t'insister vraiment?
Ben oui.
Je fais 4 pieds 10.
4 pieds 10.
Sans talon, mais je porte souvent le talon. Alors, je dois aujourd'hui avoir le 5 pieds 1, assurément.
Ouais. Ça a-tu été quelque chose pour toi dans ta vie que
tu
as eu...
Tu commences de même.
Que tu as accepté très rapidement en disant, regarde, je mesurerai jamais 6 et 4, là?
Hey, non, mais...
Parce que pour une fille, c'est pas si pire, 4 pieds 8, 4 pieds 9.
Au contraire. Ah ouais? Ben, je vais parler pour moi, là. Je peux pas généraliser. Mais moi, ça a été toujours un atout. En fait, c'est comme si j'ai dû développer... Tu sais, moi, donner un coup de poing sur la gueule, ça ne marchera pas.
Non, tu ne te rends pas.
Il n'est pas fou. Je m'excuse, je l'élève mal.
Moi, non, mais
je l'échappe, Paul.
Ben, j'ai essayé 6 ans, ça n'a pas marché. Audrey, occupe-toi de toi, ne t'acharne pas, ça ne marchera pas. Il faut finir par l'aimer tel qu'il
est. Oui, c'est ça, il faut l'accepter.
Ben, moi, ça a été plus d'avantages. Puis, tu sais, je réponds toujours... En me faisant pogner, là. Je pense toujours que c'est une vraie question, puis je réponds avec une réponse intelligente qui réussit à récupérer. Mais moi, ça a été un atout. Un, parce que j'ai dû apprendre à me défendre. Et à me défendre en m'affirmant. Parce que je pouvais pas donner une claque à la gueule, tu sais. Puis moi, je suis pas une fille qui se laisse avoir, qui se laisse faire. Fait que j'ai développé ça. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup en délinquance, en santé mentale, tu sais. J'avais même quand j'avais en psychiatrie, j'avais même un salaire ajusté à la hausse, un bonus qu'on appelle, parce qu'il y avait une clause de dangerosité, il appelait ça comme ça. Et je dois, jusqu'à maintenant, là, demain, je ne peux pas te le dire, mais ce qui est fait est fait. Les gens se faisaient frapper, se faisaient à côté dans le mur, et moi, on me protégeait. C'est comme s'ils se disaient, on la touche, elle, on la tue, fait qu'on y touchera pas. Il y a toujours eu comme un phénomène de protection.
Ouais.
Puis, je trouve que les gens viennent beaucoup près de moi. Ils vont me toucher. Tu sais, un peu comme un enfant, c'est pas menaçant, tu sais. Je trouve qu'il y a des... En tout cas, moi, j'y vois des avantages. Et je trouve que les petites personnes vieillissent peut-être moins vite. Non, mais...
Peut-être. Mais pour
j'ai l'impression... Parce que la caricature de l'enfant...
Ouais, c'est peut-être une impression, parce que moi, je joue surtout avec des gars, là, mais j'ai l'impression que pour une femme, trouver un partenaire quand on est petit ou de moyenne taille, c'est pas si compliqué que ça.
C'est pas compliqué.
Mais pour un gars, se trouver une blonde, quand il mesure 4 et 8, 4 et 9, 4 et 10, tu sais, des fois, il est pas trop porté à le dire au départ, s'ils se sont pas vus, mais faut le dire, tu sais. Hey, by the way, je mesure 5 pieds, là. Ça te va dessus, parce que sinon, tu vas te rendre au rendez-vous pour rien.
Oui, je pense que c'est plus péjoratif pour les garçons, en tout cas pour les entendre parler.
Ça fait pas de mauvaise personne pour autant.
Ben non. Puis moi, mon mari, il fait plus de 6 pieds, là, tu sais, puis il trouve ça cute, les gens, tu sais, ils diront pas. Mais si c'était l'inverse, que mon chum faisait 4 pieds 10, puis moi, je ferais plus de 6 pieds, il y aurait assurément des commentaires.
Il y aurait des regards.
Alcalins, je
pense. T'as-tu déjà sorti avec des gars plus petits, Audrey?
Ah, mon Dieu, une grande fille. Majoritairement.
Oui.
Tu sais, mon chum, on a la même grandeur, puis je remercie bon Dieu, là, dans le sens que j'ai toujours été. Moi, je suis 5 pieds 10, si c'est pas 11, là.
Oui, j'avais remarqué. Puis moi, quand même.
Puis non, ça a toujours été un enjeu. Quand j'étais au secondaire, mettons, c'était dur, là. Parce qu'on dirait qu'on... Je sais pas pourquoi on dirait qu'on se développe et on grandit plus vite aussi, là.
Les filles, oui.
Fait que non, j'étais tout le temps... J'avais plein d'amis qui étaient plus petites que moi. Puis je vais pas dire jalousais, mais j'ai toujours un peu envié ça. Puis c'est plate à dire, mais ça jouait sa confiance aussi parce qu'on glorifiait beaucoup les filles qui étaient plus petites.
Tu vois?
Fait que moi, j'avais tout le temps une tendance à me renfermer les épaules, à essayer de débalancer mes hanches un peu pour perdre un pouce ou deux, là, tu sais. Je mettais pas de talons, je faisais bien attention. Fait que ça a joué, moi, sur l'affirmation de soi. Tu vois, c'est drôle.
Puis le problème avec les grands, qui sont grands, petits, tu sais, ils sont jeunes, mais ils sont grands, c'est qu'on oublie qu'ils sont jeunes. Donc, on va accepter moins bien. Parle comme un grand. Tiens-toi comme un grand. Mon Dieu, il fait pas encore ceci. Oui, mais il a juste 5 ans, il a juste 10 ans. Tu sais, les grands, on va être portés à peut-être pas les identifier. Puis, tu as souvent remarqué des grands qui vont avoir porté à avoir le dos voûté, à... Tu sais. Moi, mon problème, c'est vraiment plus physique, dans le sens que, ben c'est aussi bête que j'atteins pas autre chose que la première, là, je te vois rire, la première tablette, tu sais. Ouais. Non, non, mais j'ai des tibans, mais moi, c'est plus, c'est pas adapté.
Ouais. Moi, j'ai acheté une maison ancestrale, OK? Il y a ça quelques années dans le secteur de Lévis, puis je veux dire, j'étais à l'école, j'ai appris plein de choses, je trouvais ça très intéressant, mais je ne savais pas que les gens, anciennement, étaient plus petits.
Oui.
J'étais jeune, j'avais 20 ans quand j'ai appris ça. Là. Fait que là, les gens étaient plus petits. Ce qui faisait en sorte que les comptoirs étaient en bas de mes hanches. Je savais pas ça, mais les comptoirs étaient en bas de mes hanches.
Absolument.
Puis là, aujourd'hui, les nouvelles générations sont pour la plupart toutes plus grandes que moi. Là. Puis je suis pas un petit gars, je suis à 5 et 10, 5 et 11. Là.
Oui.
Puis les nouvelles générations sont toutes à 5 et 11, 6 pieds.
Ouais, t'as 10 pieds 1, 7, 6 pieds 7 là.
Hein, ouais, il y a 10 pieds 7.
J'en connais quelques-uns, là.
Annie qui dit « Salut, j'ai 5 et 11, j'ai toujours voulu mesurer 5 et 6. Aucun gars voulait de moi. »
Mais c'est vrai.
Ouais.
Hey, moi, c'est mon chum, c'est le premier gars qui me dit « Voyons, André, porte-les tes talons, assume-toi, tiens-toi droite. »
Oui, oui, oui.
Parce que j'osais pas mettre des talons, parce que je me disais tout le temps, quand je vais sortir dans une soirée, je vais avoir une tête de plus que mon chum.
Mais c'est parce qu'il a confiance en lui.
Ben oui, probablement que ça vient de ça, il s'en contrebalance.
Exact.
Mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui. Moi, j'ai un ex-copain que c'était ça, là. Mets pas de talons, s'il te plaît.
Allez. Ah oui, oui.
OK.
Oui, je pense que pour les hommes, c'est probablement plus un attribut difficile à vivre en société. Je pense que la société a un regard différent.
Bon. Et on a choisi tout un sujet ce soir, ma belle Paul, ce soir. C'est aujourd'hui.
Bon matin, hein?
Je suis encore dans notre temps.
As-tu pris ton café?
Non, non, ça me rappelle. À chaque fois que tu viens, ça me
rappelle. Il est malade, hein? Il est congestionné, ça bloque le cerveau.
Ça me rappelle les soirs qu'on passait ensemble à job. Hey,
oui, tu as bien fait de spécifier, oui. Parce que là, il y a des rumeurs.
On salue ton chum. Hein? Spécialiste du comportement humain, on parle du syndrome du cerveau saturé.
Absolument. Ce qu'on appelle l'overthinking, qui est la nouvelle nomination, c'est le cerveau qui ne se met jamais à off. L'image que je pourrais apporter, c'est le hamster dans la petite roue qui tourne tout le temps et qui n'arrête pas, mais qui arrive nulle part.
On est tous susceptibles d'avoir ça, l'overthinking?
Je pense que oui. Je crois que les gens qui ont une propension à l'anxiété ont plus de propension à l'overthinking. Puis, tu sais, on pourrait définir, il y a des signaux. Il y a des signaux qui nous amènent à dire qu'on rentre dans une phase parce qu'on a tous une préoccupation un jour ou l'autre, on analyse une situation. L'overthinking, c'est quelque chose qui peut s'installer. Tu sais, t'arrives pas à reprendre le contrôle. Puis pour initier la rencontre, j'ai eu envie de prendre Boucard Diouf, que j'aime beaucoup, qui disait « Mon grand-père disait », tu sais, il dit souvent
ça. « Mon grand-père me disait toujours ».
Oui, t'as le bel accent. « C'est quand l'homme voit un moustique se poser sur son testicule qu'il comprend enfin que tous les problèmes ne peuvent se régler par la violence. » Donc, comment on fait pour arrêter de se faire violence? Parce que moi, c'est un peu ça que je vois. L'overthinking, ça fait mal. Ça fait souffrir. T'es pas dans une zone où t'es bien.
C'est pas confortable.
C'est pas confortable, puis ça peut même nous amener à perdre le contrôle.
Oui, puis souvent, ça amène à l'épuisement professionnel.
Absolument.
Parce que, ceux qui font de l'overthinking déjà, qui font des jobs qui sont très demandants, puis qu'en plus, on peut rajouter un petit TDAH, là, ça peut être un cauchemar juste de passer ces journées. Tu arrives à la maison, tu dois être complètement brûlé. Là.
Oui, puis tu n'es pas capable de faire autre chose. Puis j'avais envie de vous donner quelques signaux de l'overthinking. Pour se reconnaître.
Allons-y. Tu penses-tu que tu es cette candidate-là, toi?
Ah, 100%.
Ah, oui.
Oh, mon Dieu, moi, la tête arrête littéralement jamais. Puis j'aime bien le terme saturation du cerveau parce que c'est comme si à un moment donné, tu penses tellement que tu n'as plus d'espace dans la pièce. Les boîtes sont empilées, touchent au plafond, puis tu ne peux plus rentrer, là.
Oui, c'est une bonne image, comme un cul-de-sac.
Je pense que je correspond aussi à ce profil-là, sauf après avoir fait l'amour. Là, je pense plus à rien.
Ah, mais c'est bon, Yann, fais l'amour plus souvent. Plus, ben oui,
moi, je pense que c'est notre recommandation à moi et Audrey. Remarque, avec l'âge, peut-être que ton potentiel diminue. Ça pourra faire l'attrait d'une autre chronique.
Ah, peut-être. Il faut que tu trouves d'autres trucs, éventuellement.
En fait, les signaux, c'est revoir mes erreurs en boucle. C'est ça l'affaire, c'est que ce n'est pas positif, ce n'est pas une analyse de situation qui est saine. L'overthinking est dans le négatif, c'est que tu revois sans cesse tes erreurs. Pourquoi j'ai dit ça? Comment ça se fait j'ai dit ça? Mais tu finis par voir que le négatif et ça grossit la situation. Peut-être que ce n'était pas si pire que ça, mais l'overthinking fait que ça prend de l'ampleur. Ça va atteindre le sommeil, souvent... C'est, avez-vous remarqué que quand ça commence durant une période de sommeil, c'est pire? Avez-vous remarqué que ce qu'on pense la nuit,
ah ben oui.
C'est pire? Puis que le matin, on arrive et on se dit, Voyons, ça se fait que j'ai passé la nuit sur ce dossier-là.
C'est qu'aucun stimuli la nuit à part ce qui se passe entre tes deux oreilles. T'sais. Tu peux pas te changer d'idée, tu peux pas regarder à quelque part pour te changer la tête de place.
Il n'y a pas de réorientation. Puis le soir, il y a comme un environnement qui t'amène à rester collé sur ce qui va pas. Mm. Les scénarios. On se fait plein de scénarios et puis on se pose 1000 questions. Tu sais, l'overthinking a peut-être commencé par une collègue ou un collègue de travail qui, depuis quelques semaines, ne semble plus être tout à fait le même ou la même avec toi. Au lieu d'aller vérifier, tu te mets à te faire plein de scénarios, tu te poses 1000 questions, puis là, ça part. C'est vrai, il ne m'a pas parlé de la même façon en réunion. C'est vrai, ce n'est pas assez à la même place que d'habitude. Puis là, tu pars, puis tu te crées des hypothèses. Donc, tu es constamment dans la création de scénarios. Mmh. Puis ça, c'est tu sais, au fond, dans la vie, le cerveau, soit qu'il va créer des scénarios d'horreur ou il va être dans la création d'éléments qui t'amènent à être en avancement dans ta vie. Mais, tu sais, l'overthinking, c'est que tu crées des scénarios d'horreur.
Mais j'ose penser à une femme d'affaires ou un homme d'affaires qui fait de l'overthinking. Ça doit être un cancer dans sa vie, cette personne-là. Là.
Bien, tu le disais tantôt, on peut parler d'épuisement professionnel à moyen et long terme parce que tu n'es pas capable de décrocher. C'est comme si tu disais... Je prends ma voiture, puis je roule et je n'arrête jamais.
C'est-tu relativement nouveau dans l'histoire de l'humanité, ça, l'overthinking, la suranalyse, ou ça a toujours été comme ça à différents degrés?
Bien, ce qu'on remarque, c'est qu'on est une société d'anxieux. On est anxieux et on a une société qui nourrit la peur. Au lieu de nous enseigner le comment faire, on nous enseigne à avoir peur pour être capable d'amener des nouvelles idées, puis d'amener le peuple à être... tous dans la même lignée. Et au début du siècle, par exemple, les gens avaient bien plus de raisons d'être anxieux. Tu sais, aujourd'hui, on a le lave-vaisselle, le micro-ondes.
Oui, il me semble que notre vie se facilite, mais au final, elle se complique.
Bien, il y a beaucoup d'anxiété de performance. Tu sais, à l'époque, là, tu te levais et tu travaillais manuellement pour la plupart. Puis, tu étais centré parce qu'on sait que le travail manuel nous aide justement à calibrer au niveau de l'anxiété. Et tu étais tellement préoccupé à survivre, parce que s'il n'y avait pas de patates que tu cultivais, tu mourrais. Là. Tu ne pouvais pas aller au métro en chercher là, ou n'importe quel. Tu étais tellement préoccupé à ta survie. Et on remarque que les peuples qui sont très préoccupés par leur survie ont moins d'anxiété parce que toute ton énergie est mise à survivre. Tu n'as pas le temps de commencer à te poser des questions. Tu vas trouver des solutions parce que tu dois avoir la patate dans ton assiette. Puis c'était ça au début du siècle. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de l'anxiété, mais... Puis, ce que je remarque, c'est qu'il y a de l'anxiété plus jeune aussi. Puis, le fait qu'on a beaucoup plus d'ouverture, c'est qu'on savait ce qui... On était plus un peuple qui ignorait les choses, mais on ignorait ce qui allait mal aussi. Tu connaissais ce qui se passait sur le perron de l'église. Là, tu sais qu'il y a une guerre, tu sais qu'il y a ci, tu sais qu'il y a...
Ouais, c'est le monde entier qui est connecté ensemble.
Ensemble. Fait qu'imagine, ça nous amène une ouverture extraordinaire. Tu sais, ce qu'on gagne d'une main, des fois, on le perd un peu de l'autre. Puis, on est beaucoup, beaucoup dans l'anxiété de performance. On est beaucoup dans la comparaison.
Mais pourquoi? Pourquoi on s'impose ça?
Bien, je te dirais que on a créé un univers. Tu sais, les gens me disent, Paul, les enfants ont tellement changé. La vie a tellement changé. Pour nos jeunes, on ne les reconnaît pas. Un bébé qui vient au monde, c'est un bébé rose comme à l'époque. Là. Ce qui fait qu'il est différent, c'est qu'il est en immersion dans une société. Société de consommation. À l'époque, là, je reviens là-dessus, on cultivait toutes des patates. On pouvait cultiver qu'il y en avait une plus grosse que l'autre, mais là, tout le monde était pauvre ou presque. Il y avait les très, très riches, puis il y avait le peuple. Puis à l'école, on était tous habillés pareil, puis ou presque. Tu sais, aujourd'hui, là, il y a un mode de comparaison. Puis, c'est comme si c'était jamais assez. On court après le bonheur sans réaliser que le bonheur, c'est dans les petites choses. Alors qu'à l'époque, on avait tellement rien que le jour où on avait du beurre sur nos toasts, on se disait « Wow, c'est tellement bon ». D'ailleurs, avez-vous remarqué que quand on est malade puis qu'on n'a plus de santé, le jour où on reprend la santé, qu'on reprend le goût à manger, qu'on reprend le goût, on fait « Wow ». Tu sais, moi, j'ai été hospitalisée pendant longtemps. Quand je suis sortie, j'étais dehors. J'attendais mon chum qui avait été chercher la voiture. Puis j'étais proche d'un truc d'autobus. Il y avait de la boucane d'autobus. C'était le matin, tu sais, tout le monde était en train de prendre l'autobus. Puis j'ai dit, waouh, ça sent tellement bon. Finalement, pour m'apercevoir que ça sentait l'autobus. Mais c'était juste être dehors, mais on l'apprécie plus. Ouais. On s'arrête plus.
Je lisais, ça fait une couple d'années, j'avais lu un des livres d'Eckhart Tolle. Je pense que c'est ça son nom, Eckhart Tolle. Puis il mentionnait que la majorité des gens qui nous entourent, puis je pense qu'il s'incluait peut-être à ce moment-là, avant qu'il ait sa fameuse illumination, là, dont il nous fait part dans son livre, il mentionnait que la majorité des gens sont dans le futur ou dans le passé.
T'as raison.
Très peu sont sur la journée même.
T'as raison, oui.
Puis je pense aux mères de famille, puis la mère de mes enfants est comme ça. Elle est tellement planifiée. Là. Tout est fait. Elle sait exactement ce qu'elle va faire dans les 2, 3, 4 prochaines semaines. C'est une femme d'affaires maintenant. Puis elle est tout le temps extrêmement structurée. Puis ce que Eckhart Tolle mentionnait, c'est qu'on devrait tous y aller, si possible, au jour le jour, plutôt que de tout le temps ressasser le passé ou encore se dire qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Je vais-tu avoir assez d'argent pour ma retraite? C'est bien de le faire, mais quand ça devient comme... trop, ça prend trop de ta tête ou de tes pensées, tu devrais commencer à t'observer et te dire qu'il faut changer les choses.
Vrai. Mais ça dépend comment tu utilises le passé et le futur. Si tu utilises le passé pour apprendre, comprendre, évoluer, il y a un homme d'affaires qui m'a dit, « Paul, si tu fais jamais d'erreur, je te congédie. Si tu en fais trop, je te congédie, c'est que tu n'as rien appris. » Donc, le passé doit nous servir à apprendre, à évoluer. Si tu t'en sers pour avoir des remords ou des regrets, c'est sûr que tu n'es pas à bonne place. C'est sûr que le futur, il faut le planifier un peu. Avoir des projets, c'est positif, tu comprends? C'est se projeter dans le futur, mais si tu te projettes pour être dans l'anxiété d'appréhension, il va arriver quoi dans 2 jours, il va arriver quoi? Puis on n'a plus d'espace-temps. Hein? Tu parlais de ta conjointe, ton ex-conjointe. La mère de tes gars. Quand on est trop structuré, ça ne laisse pas de place à qu'on n'avait pas prévu. Et là, on sent que les gens tombent comme des mouches parce qu'ils sont tellement serrés, là, tu sais, dans tout. Dès qu'il arrive un petit imprévu ou quelque chose, il n'y a plus de place.
En même temps, c'est dur de faire autrement parce que les gens ont des attentes. Tu sais, dans nos emplois, maintenant, on est tellement, justement, efficace que on ne s'attend pas à moins de toi. Tu sais, c'est dur de trouver le temps puis les solutions pour faire cette place-là mentalement, je trouve.
Bien, c'est là qu'on se questionne aujourd'hui. Puis je crois que...
Parce que t'as l'air large, Paul, on va se le dire. T'sais, si tu vas voir ton employeur et tu te dis « Je m'excuse, moi, j'essaie de retrouver un équilibre là, mental là, puis de vie, puis j'essaie de faire de l'espace dans mon cerveau, j'ai pas l'impression que tu as beaucoup d'employeurs qui vont faire être raison. »
Mais tu peux dresser tes limites à ton employeur. C'est ça que je pense. Tu peux dresser tes limites. Là, les employeurs qui s'attendent que pour un 20 $ de l'heure, tu travailles 7 jours sur 7 pour eux autres, puis ils peuvent te rejoindre à 23 h le soir, il faut que tu sois disponible. Mais tu dis « Moi, je vais être le meilleur employé que tu veux. »
Mais c'est quand même mal vu, je pense.
Entre telle heure et telle heure. De moins en moins. Ça dépend des domaines, je pense.
Oui, puis je pense que l'équilibre, c'est pas une bonne gestion du temps, c'est une bonne gestion de tes limites. Puis ce que ça veut dire, c'est pour être plus efficace encore, il faut être capable de gérer ce qui se passe entre tes deux oreilles. Parce que tu peux avoir l'impression que tu as travaillé beaucoup, mais tu as passé 3 heures sur une patente. Quand tu es trop perfectionniste, tu t'égares tous les petits détails, puis tu refais 100 fois, puis 100 fois, puis 100 fois. Tu as l'impression d'avoir travaillé beaucoup, mais... L'idée, c'est quand on est capable de calmer cette anxiété de perfectionnalisme-là, puis cette espèce d'hamster qui court tout le temps, t'es plus efficace. Tu sais, il est prouvé que si tu prends après une heure et demie, une pause, tu vas être plus efficace à ton retour, mais tu vas faire de l'acharnement en disant « faut que je travaille, faut que je travaille, faut que je travaille ». Puis je pense que au contraire, si tu es capable de t'affirmer puis mettre tes limites, tu vas être beaucoup plus respecté de ton employeur. Ça ne veut pas dire que tu es lâche. Ça veut dire que tu organises ton travail autrement. C'est pas de travailler moins, c'est de travailler autrement. Tu sais, ma grand-mère, elle disait, c'est pas le travail qui tue, c'est la façon dont tu le fais. C'est la façon dont tu es libre dans ta tête. Être libre dans sa tête veut dire être capable de laisser de la place, justement, pour créer une machine à solution, être capable. Sinon, tu fais du surplace. Tu fais l'effet trampoline, tu sautes, mais t'es toujours à même place.
Pour ceux qui ont le syndrome du cerveau saturé ou encore de l'overthinking, est-ce que de se concentrer sur un sport, sur un loisir ou sur l'art, il y en a qui sont des artistes, est-ce que c'est une belle façon ça, de se sortir un peu de l'overthinking? C'est-à-dire que là, t'as un sport à faire, sport d'équipe, puis tu penses pas à ta job, tu penses pas à ta famille. Là, on est dans le moment présent.
Absolument.
Puis on doit jouer ensemble.
On dit que les plaisirs, c'est l'élément le plus apte à nous ramener dans le moment présent. Le plaisir. Ce qui nous fait plaisir. Tu sais, je sais pas, moi, si t'aimes le sport à folie et t'es en train de faire le sport, ben tu peux pas être ailleurs que là parce que tu tripes, parce que tu aimes ça, parce que tu es content. Je ne sais pas si tu te rappelles, Yannick, j'avais déjà proposé aux auditeurs, quand on était ensemble, de faire la liste de leurs 30 plaisirs. Puis là, il y avait plein de monde qui avait écrit « Pour les folles, 30 plaisirs, qu'est-ce que c'est ça? » Un minimum de 30 plaisirs. Et c'est justement quand tu sens que le hamster, il a mis ses chouclaques de feu, là, puis tu n'es plus capable de décrocher, il faut que tu fasses un reset. Et une des bonnes façons de faire un reset, c'est de choisir un de tes plaisirs. Ça peut être juste de te lever et d'aller te faire un allongé. Ça peut être juste d'aller te mettre de la crème à main. Ça peut être... Là, je vais essayer de prendre quelque chose de masculin, mais tu sais, l'idée là-dedans, c'est plus on fait de l'overthinking, plus on est dans l'acharnement. Et cet acharnement-là nous amène nulle part sur un cul-de-sac.
Est-ce que les gens sont capables de s'observer quand ils font de l'overthinking? Parce que, mettons, il peut y avoir plein de techniques, là, mais je reviens au livre d'Eckhart Tolle. J'essaie de me rappeler du livre. Je pense que c'était « Le pouvoir du moment présent ». Peut-être juste vérifier, là, Eckhart Tolle, « Pouvoir du moment présent ». Lui, ce qu'il disait...
Oui, c'est exactement ça.
C'est ça. Ce qu'il disait, c'est que il y a la personne physique, il y a la personne, le cerveau et tout ça, mais il peut aussi y avoir quelqu'un qui t'observe, qui est quand même toi-même. « Hey, t'as-tu vu comment tu te parles? T'es toujours négatif. » As-tu vu comment est ta vie présentement? T'es en train de faire de l'overthinking, t'es brûlé. Va faire quelque chose que t'aimes pendant un certain temps, puis reviens. T'sais. Plutôt que juste être deux personnes, là, j'essaie de le résumer, ce qu'il dit, c'est un peu plus intelligent que ce que je suis en train de te dire. Là. Mais lui, il dit, savoir s'observer, c'est la meilleure des façons de faire pour continuer, puis à trouver peut-être le moment, le fameux moment présent auquel tu t'attends.
Ouais, ben, on pourrait résumer ça en disant, puis c'est très intelligent, c'est être dans la vérité. Très souvent, on va être dans le déni. On va être... Parce que réaliser des choses, c'est l'obligation de changer des choses. Donc, être dans le déni, c'est rester à la même place. Et souvent, on va se trouver plein d'excuses. Oui, mais...
Il y en a qui ne trouvent pas ça efficace non plus, tu sais, qui se disent, s'il faut que je réfléchisse au fait que je réfléchis trop, j'ai pas de temps pour faire d'introspection personnelle, tu sais. Fait qu'il y en a qui s'arrêtent à ça, j'ai le sentiment aussi, là.
Ben, tu sais, il y a des saboteurs.
Ils sont bien dans le merde.
Oui, ils veulent pas changer.
Non, mais c'est vrai, il y en a qui essaient tout seuls parce qu'ils tombent dans leur tête, puis pour eux, c'est un cauchemar parce qu'ils savent pas par où commencer.
Mais ce qu'il mentionnait dans son livre, moi, je l'ai créé, là. Tu sais, je le sais des fois que ça va pas super bien mentalement, fait que va courir, va au gym, fais d'autres choses que de penser au travail, fais d'autres choses que de penser à un peu ma fin de semaine, comment je vais faire pour me rendre à la même heure dans deux arénas différentes. Je suis seul, il n'y a pas personne qui est là pour m'aider.
On m'avait déjà donné...
Arrêtez tout simplement de réfléchir à ça. Faire un 60 minutes intense dans quelque chose que t'aimes, que ce soit de l'art, un loisir ou encore du sport. Puis après ça, tu reviens puis t'as les esprits plus clairs. Puis on dirait que t'es reposé, même si t'as fait du sport. T'es supposé être plus fatigué, on dirait que t'es reposé.
On m'avait déjà donné aussi, puis Paul, tu pourras confirmer, mais le truc de juste changer d'environnement. Tu sais, mettons là, que, je sais pas, t'es saturé au travail, là, puis tu surréfléchis, ça avance pas justement, t'es pas efficace. Si tu travailles tout le temps, mettons, à ton bureau, ben va donc essayer de travailler au café en bas, voir. De changer d'environnement, ce que ça va laisser comme espace dans ta tête. Je sais pas si c'est quelque chose que
tu partages. C'est de la réorientation, tu sais. Des fois, je dis, mets juste ton manteau, va dehors. Juste la réorientation. Puis je vous en avais apporté quelques petits éléments pour être capable de travailler sur l'overthinking qui est assurément un poison parce que c'est de l'anxiété. Puis, tu sais, il y a une différence entre... Puis ce que tu disais, Yannick, on appelle ça la narration. C'est-à-dire, on réfléchit pas. On va devenir un narrateur de sa vie. C'est comme si on se regardait et on se disait, « T'es-tu encore en train de travailler à minuit soir, là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? » Moi, je fais ça, je fais comme la narratrice. Je dis, « Voyons, maudite fois, tu fais quoi, là? » Tu sais, sors de ce corps, puis c'est même pas une réflexion, c'est comme une photographie. Tu réfléchis pas, là. Tu photographies, tu fais comme une prise de conscience rapide. Dis, « Voyons, je suis encore en train de faire ça, moi?
Oui. »
C'est-tu ça, là? Tu sais, comme... Puis... L'idée, c'est la vérité. Une prise de conscience, c'est d'être dans la vérité. C'est juste de voir ce qui est là avec le plus de vérité possible, le plus d'humilité possible. Puis souvent, le manque de confiance en soi, la peur d'être jugé des autres, la peur, c'est souvent la peur de perdre, de ne pas être à la bonne place. C'est souvent la peur. Puis de prendre conscience de cette peur-là nous aide aussi à la contrôler. Tu sais, la peur, c'est comme une bête. Tu peux y claquer à la fesse puis le renvoyer dans caverne, tu sais. Parce que vous remarquez qu'à toutes les fois que vous êtes dans l'overthinking, c'est que vous avez peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vous hanter, tu sais. Ouais, mais si j'en fais pas autant, il va arriver ceci. Puis, comment on fait pour mettre le bouton stop? Est-ce possible? Oui, il y a des moyens pour nous aider à reprendre. Parce que moi, je pense que l'overthinking, c'est une perte de contrôle. Comment on fait pour reprendre le contrôle? Reprendre le contrôle veut dire, je suis sur la glace, je suis en train de glisser. Bon, comment je fais pour ramener le volant doucement, sa route? Comment je fais pour me ramener? Une des choses, c'est se déposer. On sait que se déposer, c'est une façon de prendre ce qu'il y a dans ta tête. Tu sais, l'image, tu prends dans ta tête là, ce qui n'arrête pas et tu le déposes à quelque part. Et le déposer peut prendre plusieurs images. Ça peut être, par exemple, écrire. Combien de gens sont préoccupés par plein de choses dans leur tête, juste déposer ça pour faire une liste. Puis le but, c'est pas d'aller au bout de la liste, ça, je l'ai dit souvent, là. Tu comprends? C'est dépose. Ça peut être juste de prendre quelqu'un et dire « Assieds-toi devant moi, ferme ta gueule, donne-moi pas de conseils, puis fais juste m'écouter. » Parce que c'est ça, on est dans une société où, de fast-food, on prend plus le temps de s'écouter. On prend plus le temps juste d'accueillir l'autre. Des fois, les gens disent « Mais je saurais pas quoi dire. » T'as rien à y dire. Écoute. La plupart des gens veulent juste dire « Accueille-moi sans me juger. Ferme ta gueule, puis écoute-moi, là. » Puis ça va tellement me faire du bien parce que ce que je vais avoir déposé, je l'aurais pu. Ben, en tout cas, vous remarquerez, ça aide énormément. Puis, dans un autre ordre d'idée, se donner la permission de l'overthinking pendant un intensif pour s'en débarrasser. Je vois Audrey qui dit, « Ah oui, ça pourrait être bon peut-être.
» Je t'écoute. Oui.
Tu prends une minuterie ou un sablier. On appelle ça rentrer dans l'émotion pour être capable de la gérer. Au lieu d'essayer de dire, « Ça n'existe pas, je vais être bon, on arrête. » Tu sais, au lieu de la fuir, on rentre dedans pour en sortir. Donc, tu prends un sablier, une minuterie, donne-toi 20 à 30 minutes, pas plus. Et là, tu dis, je me donne la permission de vivre cette émotion-là. OK? Je pense à tout ce qui me fait peur par rapport à ce sujet-là. Si j'ai de la peine, je sors les photos, puis la musique, puis j'ai de la peine, tu comprends? Puis je pleure, puis je suis pas bien. Mais c'est comme si tu donnais à ton cerveau la permission de le faire pendant 20-30 minutes.
Moi, j'ai une playlist. De
façon intensive. Mais après ça...
T'as une playlist pour pleurer?
Oh, oui, j'ai une playlist que je sais que c'est une switch. Là.
OK, t'écoutes-tu des films aussi uniquement pour pleurer?
Non, ça, je fais pas ça parce que c'est niaiseux. Hein, les images, on dirait, restent. Puis j'associe trop ça à des affaires de ma vie. Puis ça vient trop me jouer en dedans. J'écoute pas beaucoup des films puis des séries à cause de ça.
Ah, ouais.
T'as une playlist pour pleurer. Elle s'appelle comment?
Absolument. Broyage. Une playlist pour broyer. C'est vraiment ça. Là. Broille.
Est-ce que tu l'utilises souvent, Audrey?
Moi, je suis très dramatique. Hein. Quand ça va vraiment plus, là, moi, je fais beaucoup de route, fait que je l'utilise pendant mon 45 minutes vers Deschambault, mon 45 minutes vers ici. Fait que quand il y a comme un trop-plein, là, ouais, je l'utilise comme pour déclencher. Là, ça sort la rage, j'arrive chez nous, puis je fais le mieux.
Ben c'est ça.
C'est pas niaiseux, là, c'est tellement quétaine.
Non, mais
là,
c'est ça. C'est exactement ça que je décris. Tu donnes cette permission-là, tu provoques un événement pour dire... Là, on sort le trop-plein, puis mais on passe à autre chose après, par exemple.
Mais ça revient à aller jouer au hockey, 60 minutes.
Oui.
Ah, c'est te libérer. Puis,
tu te libères différemment.
Je sais pas, je vais faire un mélange de tes deux trucs que t'as donné, Paul, parce qu'on m'a déjà fait quelque chose qui... Ben, honnêtement, ça m'avait vraiment joué en dedans, mais peut-être que c'est une bonne chose de le faire à ce moment-là. Une fille m'avait dit « Je te donne 3 minutes. » OK. Et le principe, c'était tu mets le cadran. C'était une consultation que j'avais fait un peu spirituelle pour tester, puis j'en avais jasé à Yann en onde. Puis en gros, elle m'avait donné 3 minutes, puis elle m'avait dit « Pendant ces 3 minutes-là, je veux que sur une feuille blanche, t'écris tout ce qui se passe dans ta tête. » Puis là, ben, c'était redirigé. Fait que, ça peut être sur la suranalyse que tu fais d'une situation, une peur que tu as, la vision que tu as de toi-même, n'importe quoi.
Écriture émotive.
Écriture émotive, ouais, on peut l'appeler comme ça. Fait que là, pendant 3 minutes, il fallait que, bon, dans ce cas-ci, moi, j'écrive tout ce que je suranalysais sur ma propre personne. Tous les jugements que j'avais à mon endroit, ce sur quoi, mettons, je me tape ça à la tête au quotidien.
As-tu eu beaucoup de pages?
J'ai eu un petit, c'est un petit pad, là, puis je l'ai rempli, okay. Je l'ai rempli recto verso. Puis c'est tough parce qu'au début, le minuteur passe, puis là, tu te dis comme, OK, j'écris quoi, tu sais, c'est ouais, quasiment niaiseuse. Puis là, OK, tout ce que j'ai peur au quotidien, j'ai peur de ne pas être pris au sérieux, j'ai peur de... Bon, là, j'ai tout noté ça, puis là, après ça, elle, fallait que j'y lise, tu sais. Puis je me suis rendu compte à quel point ça me poignait en dedans, parce que quand je suis venue pour y lire ces énoncés-là, ça a bloqué, là. J'avais vraiment beaucoup de peine, là. Je me rendais compte. Ça m'a permis de sortir un peu. Tu sais, tantôt, tu disais être capable de faire un scan de soi-même. Ouais. Ça m'a permis de réaliser en lisant la feuille que, hey, mon Dieu, je dirais jamais ça à quelqu'un. Fait que pourquoi je me permets de me le répéter tous les jours? T'sais?
Très bon. Fait on est notre pire bitch, je pense.
Ah, c'est épouvantable.
Tu sais, des fois, là, en conférence, ben là, là, je vais le dire, je vais le taire pendant un an en conférence parce que je viens de brûler le punch. Des fois, en conférence ou en groupe, je vais demander aux gens de prendre une petite fiche et de penser à quelqu'un qui aime plus que tout au monde. Et de lui écrire un message sur la petite fiche qui va rester un message qu'ils vont garder, que tu vas donner à la personne. Puis quand la personne n'ira pas bien, quand elle va être en doute, tu sais qu'elle va avoir besoin d'une tape sur l'épaule, c'est ce message-là qu'elle va lire. Donc, les gens commencent, cher Yannick, et bon, ils écrivent leur petite fiche. Puis après ça, bien sûr, je leur dis de changer le nom puis de mettre leur nom à eux et de lire la petite fiche. Et c'est assez incroyable ce qui se passe. Des gens qui pleurent, tu sais, ils se rendent compte que ce qu'ils disent aux autres, ils ne se le disent pas à eux-mêmes. Puis qu'ils ont même de la misère à se le dire à eux-mêmes. Tu sais, fait que oui, prendre conscience de comment on se parle, puis je pense qu'on peut être notre pire bitch. Autre élément, Yannick, tu vas reconnaître deux mots. J'essaie d'être originale, mais il y a des bons principes qu'on garde quand même. Là. Deux mots. Est-ce que c'est plate ou c'est grave?
Ah, c'est bon, ça!
Fonctionner avec ça, ça a fait un hit. Là. Maintenant, les gens me rencontrent au centre d'achat et me disent « Hey, plate ou grave, l'utilise! » Tu sais, c'est comme rendu ma marque de commerce. Tu as posé la question. « Si tu plate ou grave, viens comme désamorcer. » Et dans 98,8%, c'est juste plate. Faire une crevaison sur le bord de l'autoroute, c'est plate. Faire une crevaison à minuit sur le bord de l'autoroute, c'est très, très plate, mais ça reste plate. Faire une crevaison dans le Bronx, à New York, en pleine nuit, bon, là, je suis plus sûre, on est à quel niveau.
C'est peut-être grave.
mais à partir du moment où tu identifies que c'est grave, tu vas être perdu dans ta tête parce que tu vas être désorganisé et tu vas être en système d'urgence. Et je trouve que, pour répondre à votre question de tout à l'heure, pourquoi dans notre société actuellement, c'est aussi un des éléments qu'on remarque. Les gens se sentent beaucoup en sentiment d'urgence. Sentiment d'urgence à répondre sur le téléphone, sentiment d'urgence à... Tu sais, on est comme toujours en sentiment d'urgence, comme si on était toujours des cardiologues en train d'opérer à cœur ouvert.
On est toujours en état d'alerte.
Oui. Et ça, ça amène l'overthinking. Tu comprends? Parce que ça déclenche l'obligation d'être performant puis de se questionner. Donc, utilisez deux petits mots à partir de maintenant. C'est-tu plate et grave? Puis même avec les petits, quand je me retrouve avec les petits, c'est assez surprenant de voir qu'on peut l'utiliser avec tout. Puis tu sais, un jour en conférence, durant la pandémie, il y avait des moments où les salles ouvraient, là, qu'on pouvait être 250, puis ça refermait.
Ouais.
Puis durant la pandémie, il y a eu un moment où j'ai donné une conférence, puis on pouvait pas être plus que ça dans la salle. Tu sais, il y avait des limites. Là. Puis, je suis en train de parler de l'anxiété, je suis en train de parler de plate ou grave. Mais là, je suis en train d'en parler alors qu'on est dans un fiume anxieux généralisé. Là. OK? Donc, il y a beaucoup de réactions non-verbales dans la salle hein, parce que les gens... Puis, il y en a une qui ne peut pas se retenir puis qui va peut-être se reconnaître, mais qui se lève puis qui dit... C'est bien beau tout ça, mais ça se règle pas tout par plate ou grave. La pandémie, toi, trouves-tu... C'est bien beau ce que tu dis. D'ailleurs, quand les gens commencent par « c'est bien beau ce que tu dis », je
tout
sais.
Tout négatif.
Oui. Je sais, je me prépare déjà à la... Puis là, elle me dit ça, puis elle dit « c'est bien beau tout ça ». La pandémie, c'est-tu plate ou grave? Mais là, on est en pleine pandémie. Là. On est comme dans un... Tu sais, il y a une vague là, où on... plus basse, mais là, on est... Puis là, t'as comme 249 yeux qui sortent... Non. De paires de yeux qui me regardent puis qui attendent ma réponse. Tu sais, je le sais que c'est une colle, là. Puis j'ai dû réfléchir. Puis voici ma réponse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, j'ai dit la pandémie, c'est juste plate. Parce que si tu considères que c'est grave, tu vas être chez vous, tu ne pourras plus bouger. Si tu es intubé aux soins intensifs
là, c'est grave.
À cause de la pandémie, là, c'est grave. Et là, on est tous dans la capacité d'analyser les situations dans l'instant présent. Je reviens avec ce que tu disais, Yannick. Mm-hmm. Oui, mais Paul, si je me retrouve intubée, là, ici et maintenant, puis moi, tu sais, souvent, tu sais, on a beaucoup dit « ça va bien aller », puis ça n'a pas bien été. Moi, tu peux plus me dire ça, ça va bien aller, ouais. Je déteste ça. Mais de dire « ici et maintenant, tout va bien », je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 3 minutes, mais là, ici et maintenant, tout va bien. On ramène l'esprit, puis tu nommes ce qu'il y a autour de toi. Bon, ici et maintenant, Audrey... Jolie, à côté de moi, elle a une robe blanche. Yannick, il est un petit peu moins, il est enrhumé. Non, mais... il est cute, pareil. Mais tu nommes ce qu'il y a autour de toi pour te ramener dans l'instant présent. Je mange avec quelqu'un qui a une sandwich aux œufs, il y a un petit peu de mayo sur le bord de la bouche. Et tu finis par « ici, maintenant, tout va bien ». Oui, Paul, dans 3 semaines, avez-vous remarqué que la téléportation n'existe pas? Et une des pires anxiétés, c'est l'anxiété d'appréhension. Parce que tu n'as pas de pouvoir d'action. Même si tu me dis « Paul, dans 3 heures », je suis pas là dans 3 heures. Moi, mon seul pouvoir d'action, c'est dans le présent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me préparer dans 3 heures? Mais ici, maintenant, tout va bien. Et avez-vous remarqué que quand on arrive à l'événement qu'on appréhendait, ça se passe souvent mieux qu'on pensait?
Ça va. Oui, mais je veux dire, le cerveau est fait qu'il doit se préparer pour ce qui va arriver de pire constamment, mais en même temps, ça devient pratiquement une nuisance quand ça prend toute ta vie, ça prend ton 24 heures sur 24, ça te suit au travail, ça te suit à la maison, ça te suit quand tu dors. C'est un calvaire, c'est un cancer, en fait.
Oui, hein? Oui, puis dites-vous qu'on doit démêler certitudes et hypothèses. Se préparer pour toutes les hypothèses qui pourraient y arriver, tu vas virer fou. Ça finit plus, les hypothèses. Te préparer à une certitude, c'est autre chose. Si tu sais que tu passes un examen important à l'université, c'est une certitude que tu passes un examen, prépare-toi. Mais si tu te prépares à l'hypothèse que peut-être que c'est la fin du monde dans 3 jours, peut-être que je vais perdre mon chum et il va m'être infidèle dans 3 semaines, c'est des hypothèses.
Ça n'existe pas.
Et ça finira pas. Et c'est un peu ça, l'overthinking. Hein? L'overthinking est beaucoup dans les hypothèses. Alors que la seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est les certitudes.
Je trouve qu'il y a une ironie, Stéphane, qui nous envoie un gros truc que j'ai d'envie pour me relever. C'est toujours de me comparer avec quelque chose de plus grave. Puis pour certaines personnes, ça marche, mais je trouve ça ironique parce qu'en même temps, on essaie aussi d'arrêter de se comparer au quotidien, tu sais. Mais c'est vrai qu'on a ce réflexe-là de tout le temps dire, ben tu sais, au moins... Je sais pas, j'ai pas perdu mes 2 jambes, là, je suis encore fonctionnel.
Ça donne quand même un billet de proportion. T'sais. Moi, je me souviens qu'avec mes gars, à un moment donné, une fin de semaine où j'étais... Écoute, il a fallu que je sorte sur le perron tellement que j'étais plus capable de les endurer. Là. Je me suis dit, prochaine étape, c'est je les mets sur le bord du chemin, j'écris « à donner ». Fait que j'étais sur le bord du chemin. Puis j'ai pensé à quelqu'un que je connaissais qui est actuellement à l'hôpital au centre mère-enfant, puis que son enfant luttait pour sa vie, puis il l'accompagnait depuis des mois et des mois. Puis je me suis dit, hey...
Les tiens sont en santé.
Ta situation, là, est grave à tes yeux, mais des situations encore plus graves. Fait que reprends sur toi. Dans ce cas-ci, tout comme Stéphane qui nous a écrit, moi, ça m'avait aidé. Puis des fois, je repense encore à ça.
On appelle ça relativiser.
Hein? Ben oui.
Ouais, j'ai la grippe, mais garde, je suis pas en train de traiter un cancer aux soins intensifs.
Exact.
T'sais? On appelle ça relativiser. C'est un moyen parmi tant d'autres. Puis si on voulait... avoir une combinaison parfaite, puis parler de moyens positifs qui s'ajouteraient à ce combo-là. On pourrait dire aussi que ce qui fait du bien, c'est d'avoir une histoire qui finit bien, puis qui est dans ce que je suis en train de. Tu comprends? Donc, par exemple, si on prenait le même exemple, je suis sur le balcon. D'ailleurs, vous savez pourquoi les familles de 12, le papa et la maman fumaient toujours, hein?
Comment ça?
Mais parce qu'il n'était plus capable de les endurer. Fait que quand il allait fumer dehors, il les laissait tranquille. C'est vrai, c'est ça.
Ça les ramenait au moment présent.
Puis quand tu parles avec eux, puis tu sais, papa fumait un peu, puis ça, c'était très, très longtemps qu'il fumait. Fait qu'il restait longtemps dehors.
Mais c'est encore beaucoup un exemple que les fumeurs donnent aujourd'hui. C'est mon moment.
Ben, ouais. Mais oui, mais ça vient de là. Pour vrai, personne vient m'achaler.
Il nous disait, je vais aller prendre l'air.
Ouais, c'est ça.
C'était ça. Mais le pendant positif, c'est de prendre une histoire qui finit bien. Par exemple, ce qu'on appelle du déjà-vu. Yannick, t'aurais pu être dehors et dire, OK, là, je me sens comme ça, mais je sais que c'est que cette situation-là va bien finir, c'est-à-dire qu'à soir, on va être avec un pop-corn devant le film, puis les enfants vont s'être calmés, tu comprends? Fait que, puis des fois, quand tu vas pas bien, tu dis, ah ouais, c'est vrai, ma tante a déjà vécu ça, puis c'est sûr, prends pas une histoire qui est pire, ton chien va pas bien, oui, c'est vrai, la voisine, il y avait la même chose, son chien, puis après un médicament, ça a bien été. C'est sûr, si tu prends l'exemple de son chien mort, tu comprends que c'est pas bon, là. Mais ça peut nous calmer des histoires qui finissent bien aussi. Puis ce que tu dis, Audrey, l'exemple de l'auditeur, c'est qu'il relativise. Il remet en contexte pour justement ramener ça. On appelle ça le thermomètre de gravité, si j'avais à mettre une image. Thermomètre de gravité, c'est qu'on fonctionne avec un thermomètre où le 5 est en haut puis le 0 il est en bas. Okay? Le 5, c'est le top. Et très souvent, quand on fait d'overthinking, l'anxiété, qu'on va pas bien, c'est que notre thermomètre de gravité est à 5. C'est-à-dire qu'on regarde la situation, puis on a l'impression... Parce que 5, t'es mort. Tu vas pas là souvent. 4, t'es aux soins palliatifs. 3, le feu a pogné chez vous, la maison est finie, mais toi, tu t'en es sorti. Donc, la plupart des choses qui se passent, c'est entre 0 et 2. C'est pour ça qu'on le divise à la dizaine, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Fait que quand tu fais l'exercice de relativiser, tu t'en vas dans le 5. Oui, c'est vrai, il y en a qui sont morts. Oui.
Ramène-toi.
Je me suis juste cassé un ongle. Tu sais, ça peut être une façon, parmi tant d'autres, c'est pas d'utiliser toujours la même, mais c'est une façon parmi tant d'autres pour te ramener ce que tu as fait au fond, c'est de dire, regarde, il y a tel parent qui vit telle affaire, eux autres sont dans le 4.
Moi, j'ai la chance de les avoir, ils sont gossants, mais faut que je reprenne ce mois.
Fait que c'est un 0,4. Tu t'es ramené sur le thermomètre de gravité.
C'est ça. Votre thérapie est terminée, Mme Pinchot?
Hey, c'était incroyable. Oui. J'aime toujours ça.
J'espère que non, parce que je vais revenir.
Ben oui, c'est ça. Il va falloir reciduler un moment éventuellement. Les auditeurs, en passant, il y en a encore qui découvrent que tu es de retour.
Ben
ils
oui.
sont très contents de savoir que tu es...
Oh, le mec! Spécialiste du comportement humain et éducatrice spécialisée. On peut t'en rejoindre de quelle façon?
Vous pouvez me rejoindre Paul Levesque à commercial@yahoo.ca, paullevesque.net. Tapez Paul Levesque, là, si vous voyez une
madame avec les cheveux
rouges, c'est moi. Oui. Vous allez, puis, tu sais, vous pouvez communiquer avec Audrey puis Yannick. Puis,
ben oui.
puis, dès mon premier passage, j'ai de vos auditeurs qui sont devenus mes clients.
Ah,
fait c'est que, ce que ça veut dire, c'est que les gens, des fois, quand ils entendent une voix, ils mettent quelqu'un puis ils ont peut-être plus envie de
ben oui.
poser un geste pour s'aider. Même si on n'est pas ici pour faire du marketing. Là,
ça a été un plaisir de te jaser.
Je vous embrasse.
On se redonne rendez-vous dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été là.
Absolument. Bye-bye.
11h08, courte pause, on vient.
Le garage à Dan Gorron